Merci bien. Alors j'essaierai de parler le plus fort possible, ça va?
Oui.
Vous m'entendez? Ah ben c'est bien, voilà. Alors vous avez vu le programme de cette année, culture, raison et foi, fondement de l'homme. Culture, nous l'avons mis au pluriel. Il n'y a pas une culture, il y a des cultures. Nous avons parlé là de la raison, parce que on en a assez parlé ces temps-ci avec l'arrivée de Benoît XVI en France. Il a beaucoup parlé des liens de la raison et de la foi. S'il n'y a pas la raison, la foi part à la dérive. C'est ça. Donc la foi doit être enracinée dans la raison. Et en même temps aussi, nous verrons au cours de cette année que la raison n'est pas le rationalisme. Parce que le rationalisme, c'est une idéologie de la raison. Et donc, à son tour, le rationalisme enferme l'homme dans une idéologie. Donc la foi, qui devrait être cette ouverture qui justement construit l'homme. Et c'est pour cela que nous commençons notre causerie par ce fait, l'homme un être en devenir. Voilà. L'homme, il n'est pas tout fait. L'homme, c'est un être en devenir. Et le Dieu de la Bible qui se révèle à nous, n'est pas le Dieu qui aime ce qui est fait, c'est le Dieu qui aime le se faisant, ce qui est en train de se faire. Voilà. Donc c'est le Dieu d'un devenir. C'est le Dieu qui appelle l'homme à se construire et à devenir. Alors, mon intervention, il y aura un premier point. La création dans la Bible est une transformation toujours à venir. Mon deuxième point, ce sera, la vie peut être vraiment humaine qu'interprétée. On est appelé à interpréter la vie. Et Dieu nous invite et nous appelle à interpréter la vie. Il ne nous donne pas la vie déjà tout interprétée, c'est à nous justement de l'interpréter. Et cette interprétation de la vie, c'est justement le premier aspect de la responsabilité de l'homme. Et enfin, un troisième aspect sur lequel j'insisterai, c'est, j'apporterai quelques pensées sur la domination de la nature et l'achèvement de l'homme. Parce que la Bible nous montre ce lien fondamental entre l'homme et la nature et la création. Ça ne fait qu'un. Et l'homme est appelé à dominer la création. Mais en même temps aussi, s'il est appelé à dominer la création, à l'achever cette création, ce qui est important, ce n'est pas d'achever la création, c'est que l'homme s'achève en achevant la création. C'est cela qui devient important. C'est l'achèvement de l'homme, mais qui ne peut se faire que dans l'achèvement de la création. Nous verrons cela, nous aborderons un peu toutes ces questions. D'abord, la création, une transformation qui est toujours à venir. Vous m'entendez bien, ça va? Bien. Ce qui ressort dans la Bible, j'allais dire le péché fondamental de la Bible. Et quand nous parlons de péché, il faut toujours penser ce qui va contre la vie. Ce qui est puissance de mort, ce qui est puissance de destruction. Alors le péché fondamental de la Bible, bien c'est le péché d'idolâtrie. Et qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Soyons bien clairs. Dieu est présenté justement dans la Bible comme un Dieu jaloux, hein, des autres dieux. Mais l'idolâtrie n'est pas une rivalité entre les dieux. L'idolâtrie, c'est le Dieu que l'homme se construit, qui va dans le sens de l'homme, mais qui ne donne aucun avenir à l'homme, aucune transformation à l'homme, aucune responsabilité et aucune éducation de la liberté. C'est pour cela que Dieu se lève contre l'idolâtrie. C'est parce que l'idolâtrie bloque l'homme. L'idolâtrie, c'est justement l'immédiateté que l'homme veut. L'homme idolâtre, c'est l'homme qui veut, qui pense à un Dieu qui va répondre immédiatement à ses désirs. Autrement dit, l'idolâtrie, c'est la recherche immédiate de la réponse que veut l'homme, et cela sans recherche de l'homme, sans analyse, sans engagement. Car toute la Bible, c'est l'histoire de la recherche et de l'analyse de l'homme, avec Dieu. Mais Dieu est celui qui éduque justement cette liberté responsable. Vous voyez, il ne faut jamais séparer liberté de responsabilité. Hein. Dès qu'on parle de liberté, il faut toujours lier au mot liberté le mot responsabilité. Dieu appelle l'homme à la responsabilité pour qu'il soit libre, et en même temps aussi, en étant libre, il devient libre qu'en étant responsable, qu'en répondant de ses actes. Et que toute l'histoire de la Bible, c'est justement cette opposition entre d'un côté un Dieu qui appelle l'homme à la liberté responsable, et d'autre part l'homme qui cherche toujours la sécurité, une sécurité irresponsable. Et ça va très loin, ça. Parce qu'on peut, à ce moment-là, se construire le Dieu des irresponsables. On peut construire un religieux sur un Dieu des irresponsables. C'est-à-dire sur le Dieu de l'immédiateté, hein, qui va répondre d'une manière immédiate aux besoins de l'homme, aux désirs de l'homme. Bien sûr qu'il faut le désir, hein. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de vie. Hein. Mais le désir doit se convertir toujours en liberté. Et le désir doit se convertir en liberté responsable. C'est ça. Hein. Ça, c'est extrêmement important. Alors, c'est le fondement même de l'histoire de toute la Bible, de l'histoire d'Israël. C'est Dieu d'un côté qui appelle à la liberté, c'est d'ailleurs là où il se révèle Dieu. Il ne faut pas oublier que le récit de la création est venu après le récit de l'Exode. Et que la première révélation de Dieu, c'est la révélation du Dieu libérateur, avant la révélation du Dieu créateur. Et d'ailleurs, on a lu l'Exode, on a lu, pardon, la Genèse, hein, après l'Exode, c'est-à-dire qu'on l'a vu à travers l'expérience de liberté que Dieu a fait naître chez l'homme. Il y a une libération qui conduit à la liberté. Dans la Bible, c'est cela. Hein. La libération d'Égypte, ce n'est pas la libération simplement de l'esclavage. C'est faire sortir le peuple d'Égypte pour qu'il accède à la liberté. Car libération ne veut pas dire liberté. On a vu combien dans l'histoire de libérations qui ont conduit à de nouveaux esclavages. Ce qui est premier dans la Bible, la première expérience de Dieu, c'est le Dieu libérateur. Et c'est à travers le Dieu libérateur que l'on lit ensuite le récit du Dieu créateur qui est venu après. Et le Dieu créateur, qui est justement la création, le premier chapitre de la Genèse, hein, qui est basé sur la semaine juive et qui se termine par le Shabbat, hein, c'est-à-dire la liberté. Le Shabbat, pour les juifs, je pense que je ne me trompe pas, hein, rappelle la sortie d'Égypte et rappelle justement la libération. Mais c'est plus que ça aussi, hein. Ça rappelle le passage au désert où va s'éduquer et se former cette liberté. C'est l'alliance de Dieu avec l'homme qui va former cette liberté. Alors l'idole, c'est justement le contraire. Si on veut un Dieu qui nous apporte immédiatement la réponse, sans passer par la réflexion, sans la conscience, sans la médiation humaine, sans l'analyse de l'histoire. Ça, c'est nous. Et là, ça nous marque profondément, ça. Hein. On a besoin de se sortir de ce Dieu magique. On est toujours en train de rechercher la magie, hein, de la part de Dieu. On voudrait une réponse immédiate. C'est justement cela que la Bible nous révèle. Il faut constamment entendre cet appel à la liberté et à la responsabilité. Dieu est là justement dans cet appel. Il n'est pas ailleurs. Si je cherche Dieu en dehors de l'éveil de ma liberté et de ma responsabilité, je ne me construis pas comme homme. Je considère déjà que cette création injustement achevé. Or, justement, la création n'est pas achevée. Car, et c'est là mon second point, la vie ne peut être vécue humainement et donc divinement. Il ne faut jamais séparer l'un et l'autre. Il ne faut jamais séparer la vie avec Dieu de la vie de l'homme. Il ne faut jamais séparer le fait que l'on grandit avec Dieu sans grandir au niveau humain. L'un et l'autre nous conduisent à grandir en humanité, mais dans cette humanité, il y a Dieu engagé avec nous. L'un et l'autre sont fondamentalement liés. Alors, ce monde, cette vie dans laquelle nous sommes engagés, eh bien, suppose l'interprétation de cette vie. Et elle suppose, cette interprétation, la raison de l'homme, c'est-à-dire éclairée, bien sûr, par la foi en Dieu, mais cette foi en Dieu va toujours nous reconduire et partira toujours de la raison de l'homme et de la confiance de l'homme. Et cela nous demande toujours une conversion. Car tout lien avec Dieu qui ne nous conduit pas à une conversion, c'est-à-dire un changement de nous-mêmes, mais un changement constructeur, hein. Moi, quand j'appelle conversion, j'entends pas cela d'un point de vue moral, simplement. Hein. J'entends conversion. Derrière le mot conversion, il y a le mot libération. Se tourner vers Dieu, c'est se tourner vers celui qui nous rend libres. C'est nous tourner vers celui qui est responsable. Se convertir, ça veut dire se tourner vers Dieu. Et quand on se tourne vers lui, il nous appelle justement à cette liberté et à cette libération. Et que cette interprétation fait appel à notre intelligence. Car l'obstacle à la foi, c'est précisément cet enfermement, je vais dire, hein, de l'esprit dans des schémas. La foi n'enferme pas l'esprit dans des schémas. La foi est une relation avec Dieu, et une relation vivante, et une relation qui nous fait grandir, qui nous fait être, et donc qui nous fait devenir. Car dans un monde statique, si ce monde était achevé, il n'y aurait plus de responsabilité. Il n'y aurait plus de responsabilité de l'homme pour travailler à l'achèvement de ce monde. Et l'achèvement de ce monde, j'entends au monde, non seulement la création, j'entends l'histoire de l'homme. Hein, j'entends l'histoire de l'homme liée fondamentalement à cette création. Et là, nous sommes en effet dans un monde inachevé, dont nous avons la responsabilité. Donc, la création, mais une création qui n'est pas achevée, qui est à venir. N'oublions pas que le Dieu de la Bible, c'est toujours le Dieu qui vient. C'est le Dieu de l'avenir. Il y a un livre qui avait été écrit il y a plusieurs années qui intitulait « Dieu vient de l'avenir ». C'est-à-dire que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la promesse. Donc il tourne vers l'avenir. Et dès qu'il appelle Abraham, il le tourne vers l'avenir. Nous sommes toujours tournés vers cet avenir. Cet avenir qui est l'achèvement, qui se fera quand Dieu jugera bon, mais ce Dieu est toujours celui qui vient et celui qui nous tourne vers l'avenir. La création, bien sûr, c'est la nature, cela. Mais la création dans la Bible, c'est d'abord l'homme. C'est l'homme qui en est le cœur. Car en effet, si on sépare la nature de l'homme, la nature n'a pas de sens. Il faut la respecter, la nature, profondément. Mais on n'a pas à la sacraliser, comme on aurait parfois tendance à l'heure actuelle. La nature est là justement pour que l'homme puisse s'achever. Dieu appelle l'homme justement pour se créer, pour se faire. Et il nous dit justement qu'il n'y a pas cette responsabilité sans la puissance créatrice de Dieu. Et cette puissance créatrice ne s'achèvera et ne se réalisera pleinement que dans l'homme qui aura atteint la plénitude de sa liberté, la plénitude de sa responsabilité. Nous vivons du don de Dieu. Dans la création, c'est le don de Dieu. Mais le don de Dieu, c'est toujours notre tâche. On a besoin de se dire cela. Car si le don de Dieu n'était pas notre tâche, nous ferons quoi de Dieu? Non pas le père, mais le paternaliste. Or, personne n'est moins paternaliste que Dieu. Il ne fait pas. Et le don devient toujours ma tâche humaine. Si vous ouvrez la Bible, nous sommes toujours sur ce terrain-là. Si nous disons notre pain, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le don c'est la finalité. Ça ne veut pas dire qu'il va nous envoyer le pain du ciel. Ça veut dire que tu vas gagner ce pain. Mais que ce pain que tu gagnes, tu travailleras d'ailleurs, tu dois gagner ton pain, c'est fondamental dans la Bible cela. mais que ce pain que tu gagnes sera le pain du don de Dieu s'il devient le pain de tous les hommes, s'il devient le pain de tous. Si tout le monde peut accéder au pain. C'est dans ce moment-là, nous faisons du don de Dieu un Dieu paternaliste qui nous fait des cadeaux. Or, Dieu ne fait pas de cadeaux. J'aime pas beaucoup le mot, moi, quand on dit « c'est un cadeau de Dieu ». J'aime pas le terme. Dieu n'est pas celui qui fait des cadeaux. Je dirais même, je pousserais juste à dire, n'est pas celui qui fait des dons. Dieu, c'est le don. C'est lui qui se donne. Et c'est lui qui se donne à l'homme pour que l'homme se réalise pleinement lui-même. Et il est vrai qu'on ne peut pas vivre cette responsabilité, cet achèvement de l'homme, cet être en devenir, sans cette puissance créatrice de Dieu. Mais pour Dieu, le don est justement réciproque. Si le don n'est pas réciproque, je deviens paternaliste. Le don qu'il fait demande ma réponse. Parce qu'en ce moment-là, ce don-là ne me construirait pas, ne me permettrait pas, moi, de me réaliser dans ma propre liberté. Donc, tout don de Dieu, c'est ma tâche humaine. Et nous devons lire toute tâche humaine comme don de Dieu. Et en même temps aussi, tout don de Dieu devient ma tâche humaine. La technique, c'est une tâche humaine, et la technique est don de Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons lire cette technique que comme appel de Dieu qui lui en donne toute sa signification. Nous ne pourrons pas nourrir, je crois qu'on prévoit démographiquement 8 millions d'hommes pour, 1950, je crois, Nous ne pourrons pas nourrir 8 millions d'hommes sur la Terre sans une technologie.
8 milliards.
Là, j'ai dit 8 millions. Ah oui, 8 milliards d'hommes, excusez-moi. Voilà. Nous ne pourrons pas nourrir 8 milliards d'hommes uniquement s'il n'y a pas une technologie. S'il n'y a pas les moyens de tracer des canaux, de faire des conduites d'eau, de développer le sol, etc. Mais tout cela, c'est évangélique pour nous chrétiens et pour la Bible aussi, pour les Israélites aussi. C'est-à-dire, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Ça fait partie, ça, du don de Dieu. Puis en même temps aussi, ça fait partie de la tâche humaine. J'ai scandalisé parfois des personnes dans des prédications quand j'ai dit qu'il est plus important devant Dieu de faire des canaux d'irrigation que de prier pour la pluie. Et c'est vrai. Parce que à ce moment-là, en effet, je rentre dans le projet créateur de Dieu qui est l'achèvement de cette humanité et d'une humanité où l'homme trouve pleinement sa place pour vivre pleinement aussi sa liberté et sa responsabilité. Donc la création, c'est toujours cette nouveauté. Quand on dit création, ça veut dire nouveauté. Si on ne parle pas de nouveauté, il ne faut pas parler de création. On fait de la répétition. Lisez la Bible. Il y a un passage que je lis souvent pour le mariage. C'est ce passage de la Genèse qui dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'un. » Le père et la mère, c'est important.
Père, la limite, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort
parce qu'il y en a qui ont du mal. Pardon ? Faut parler plus fort ?
Oui.
Ah bon, d'accord. Très bien. Ça va maintenant ?
Est-ce qu'on peut vous demander de répondre
dernière phrase, du père et de la mère.
Voilà. L'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme. Et tous deux ne feront qu'un. Alors, je le sais souvent dans les mariages, cela. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que l'on a reçu de son père et sa mère, c'est important. Mais l'amour qui unit l'homme et la femme est un amour créateur. C'est quelque chose d'unique. Et ils ont à se construire eux-mêmes dans cet amour. Ils ont à ce moment-là, ils entrent dans une création. Hein. Non pas dans la reproduction d'un modèle, hein, mais dans une nouveauté que seuls peuvent réaliser. C'est la nouveauté de l'amour. Donc l'amour est toujours une nouveauté. De même aussi que l'âme ne peut achever ce monde dans l'amour, mais que l'amour exige la justice. Je pense au prophète Jérémie, hein, qui disait au chapitre 22 au roi Joachim: malheur à celui qui construit maison sans la justice et ses chambres hautes sans respecter le droit, qui fait travailler pour rien son prochain et ne donne pas le salaire de son travail. C'est chapitre 22, verset 13. Et il rajoute aussi: Ne ferais-tu figurer le roi de ton père qui était roi pour qui le distinguait, ton père, et cet homme qui justement appliquait profondément la justice. Et que vivre la justice, c'est justement avancer dans la connaissance de Dieu. Donc Dieu veut des êtres libres et responsables en face de lui. Dieu veut entrer dans ce face-à-face avec l'homme. N'oublions pas que ça commence comme ça avec Abraham. Hein. Et Abraham parle à Dieu, la Bible le dit, comme un ami parle à son ami. Hein. C'est dans cet échange réciproque avec l'homme que se fait cette construction de l'humanité, se fait cette construction de l'homme. Hein. Dieu nous appelle à vivre cela. Et que dans cette interprétation du septième jour de la Bible, qui n'est pas toujours facile à faire, là je me suis inspiré d'un livre qui a déjà paru il y a longtemps, hein, qui avait été écrit par le rabbin Josie Eisenberg et Armand Abekassis, qui avait développé justement cette création et qui présentait le septième jour. Or, le septième jour, il ne le présente pas comme l'achèvement. Dieu n'a pas achevé encore. Hein. Il est davantage présenté comme Dieu, enfin on le dit en hébreu, hein, vaille beaucoup. C'est ça, hein? Donc ça veut dire que Dieu a posé des limites. Dieu s'est arrêté. Mais s'est arrêté volontairement. Et que ça ne veut pas dire que Dieu a achevé cette création. Ça ne veut pas dire l'achèvement, ne veut pas dire la perfection. L'achèvement, ça veut dire que Dieu a achevé. Il a mis le cercle autour, hein, de cette création. Il a mis tout le cercle autour. D'ailleurs, c'est le terme de Vaïkoubou, hein, ce qui veut dire qu'il a mis le cercle autour, et que l'homme, c'est-à-dire la création maintenant, n'est pas achevée, et que Dieu se retire, non pas qu'il se retire entièrement, attention, hein, mais qu'il se retire pour laisser la place à l'homme. Voilà. Pour que l'homme puisse s'achever et se réaliser. J'allais dire, c'est ce qu'on appelle l'absence de Dieu. Mais c'est cette absence de Dieu qui est sa véritable présence. C'est dans le récit de la Genèse, et pour nous chrétiens, c'est dans le récit de l'Ascension. C'est la présence dans l'absence. Qui est la véritable présence? Qui est la présence qui permet d'être? Qui est la présence qui permet de se construire? Donc, le ciel et la terre sont achevés, mais ils ne sont pas parfaits. Et tout est là pour que l'histoire continue. L'achèvement de la création est total, mais relatif. Et que achevé ne veut pas dire parfait. Dieu, du septième jour, c'est le Dieu qui manifeste, c'est-à-dire réellement, sa puissance. D'ailleurs, en hébreu, on le dit, hein, que l'un des noms divins, c'est Shaddai. Hein, c'est ça. Hein, qui se traduit, et là disons bien, par le Tout-Puissant. Hein, et que la toute-puissance de Dieu est interprétée dans la tradition juive, et ça je puis ça dans Josie Eisenberg et dans Abbé Cassis, voilà, hein, est interprétée dans la tradition juive par celui qui dit au monde « Assez ». Voilà, c'est ça. J'arrête là, hein, voilà. Assez, ben oui, parce que ben, faut bien laisser la place à l'homme. Il faut bien que l'homme développe sa responsabilité. Donc, Shaman Lachano dit, hein, je ne suis pas fort en hébreu, hein, c'est ça, voilà. Mais c'est important. Et Dieu a en quelque sorte contenu sa force et la maîtrise de la puissance, cette force contenue de Dieu et la maîtrise de sa puissance, et là je ne crois pas que je me trompe, a toujours été dans le judaïsme comme la plus grande preuve de la puissance de Dieu. Donc le monde est achevé, mais il n'est pas maintenant parfait. Hein? Et en hébreu, en effet, parfait, ça veut dire shalem. Et shalem, hein, ça veut dire la même racine que shabbat, mais ça veut dire cessation, et ça veut dire liberté, ça veut dire repos, non pas le repos où l'on ne fait rien, mais le repos qui est le plein épanouissement. Hein? D'ailleurs, il le dit, hein, dans la Bible, « Je te conduirai vers la terre de mon repos, hein, vers la terre où tu vas t'accomplir. Hein, » voilà. C'est ça. Donc, c'est le sens profond de ce Shabbat qui veut dire « Tu vas rentrer maintenant, tu vas achever ce monde, car tu ne t'achèves pas toi-même si tu n'achèves pas le monde. Hein. » L'homme ne s'achève pas s'il n'achève pas le monde. Hein. Il est fait pour cela. L'homme ne s'achève pas sans le travail, hein, l'engagement dans ce monde. Mais ce monde, ce sixième jour dans la Bible, hein, où l'homme est appelé à dominer la terre et à la transformer, il ne faut jamais qu'il oublie qu'il n'est pas appelé à la posséder. Il ne faut jamais qu'il oublie qu'il n'est pas appelé à la posséder. Et le Shabbat, avec tout son repos, hein, il n'en fait rien, ça veut dire que ce que tu as, tout ce que tu fais, Non, tu ne le possèdes pas. Non. Tu l'as reçu de Dieu. Tu vas à la synagogue à pied, tu n'emploies pas la voiture. C'est vrai, je possède une voiture, mais attention, il ne faut pas que la voiture te possède. Ce jour-là, tu ne fais pas marcher l'énergie. L'énergie, c'est vrai, c'est important. Mais il ne faut pas que l'énergie te possède. C'est-à-dire que tu dois devenir un homme libre. Et que tu vas rentrer dans le Shabbat, dans tout ce que tu fais, dans l'achèvement de ton être humain par le travail, par la transformation de ce monde, mais tu ne pourras le faire que si tu accèdes à ce qu'il y a de plus profond dans l'appel de Dieu, c'est-à-dire ta propre liberté. Et que tout cela, tu crois dominer, et quand tu crois dominer, tu deviens parfois, c'est toi-même qui es dominé. Et que le projet de Dieu, c'est justement cette capacité de liberté qui se construit au plus profond de toi-même et au plus profond de ton être. Voilà. Alors, je termine, parce que ça va vite, donc je dirais que une première chose, c'est que, je résume un peu, c'est que l'homme est appelé à dominer la nature, mais à dominer la nature, c'est pas la nature qui est en achevant la nature, en achevant la création, c'est l'homme qui est appelé à s'achever. Car s'il achève sa création pour Dieu, il devient esclave de Dieu. Or Dieu ne veut pas d'esclave. S'il y en a un qui a toujours lutté contre l'esclavage, c'est bien Dieu. Il est fait pour que l'homme s'achève lui-même. L'homme, Dieu, ne vit que pour l'homme. Et Dieu donne sa vie à l'homme. Alors, ça, c'est d'abord s'achever soi-même. Deuxièmement, la Bible est justement le lieu de l'antidestin. L'homme, l'antidestin. Il ne faut pas oublier de tout le chemin qui s'est fait dans la Bible et dans l'histoire d'Israël. Par exemple, la place des astres, rendez compte, on n'en est pas sorti encore. Il n'y a pas de revue sans qu'il y ait un horoscope. C'est-à-dire qu'on a déjà notre destin déjà inscrit, voyez. Alors que justement, l'homme appelé à la liberté, c'est l'homme qui n'est pas esclave d'un destin. Il y a ce passage de la Bible que vous connaissez bien, c'est lorsque Josué, dans chapitre 10, livre de Josué, c'est quand Josué part à la conquête de Gabaon. Et là, à ce moment-là, la nuit tombe et la victoire était proche. Mais si on laisse la nuit tomber, les ennemis en face, ils vont reprendre leur force. Alors Josué ne fait qu'un, il arrête le soleil dans sa course. Et le soleil s'arrête. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui a fait condamner Galilée. Parce que quand il disait que c'était la terre qui tourne autour du soleil, le saint office de l'époque a dit, mais non, c'est pas vrai, regardez dans la Bible. Il a arrêté le soleil dans sa course. Et c'est un rabbin qui m'a expliqué tout le sens de cela. Le sens de ce passage est clair, ça veut dire que l'homme est supérieur à l'astre. Que l'homme domine le destin qui vient des astres. À l'époque, les astres comptaient. Et quand on dit de Dieu créateur du ciel et de la terre, le ciel, ça veut dire c'est lui. Tout cela n'est rien. Parce que les divinités étaient justement accrochées dans les cieux et dominait le destin de l'homme. Alors, ça, donc, la Bible, c'est évidemment l'antidestin. Et ça, on est toujours en train de se réfugier derrière un destin. C'est difficile d'être appelé à la liberté et à la responsabilité. Hein? L'homme veut la liberté, mais en même temps, il a peur de cette liberté. Et toute la Bible, c'est cela. Hein? Il a peur. Alors, Dieu l'appelle. Et ça, c'est une parole de saint Paul aux Galates. Hein? Quant à vous, vous êtes appelés à la liberté. C'est l'appel profond de Dieu. Et je termine par deux passages que j'ai retrouvés dans le Sens. C'est une revue que je lis beaucoup, mais qui est déjà ancienne, hein, celle-là. Elle est de 1994. Hein. L'une est du rabbin Philippe Assad. Hein. Et je vais la retrouver. Alors il dit, c'est intitulé « Au-dessus du soleil ». Le roi Salomon introduit son discours dans l'Ecclésiaste par cette formule célèbre « Rien de nouveau sous le soleil », que la tradition juive commande de la manière suivante. Si nous restions sous les déterminismes du monde matériel, nous ne trouverions pas la force de renouvellement, car sous le soleil, tout est répétitif. Mais dans le monde de la culture et de la morale, dans cet espace de découverte et d'écoute de l'autre, au-dessus des astres, il y a possibilité de renouvellement. Et il ajoute, alors là, ça me paraît important, un passage qui est intitulé « Le pensant et le parlant ». La tradition juive, dans sa définition de l'homme, a opté pour le parlant plutôt que pour le pensant. Pourquoi ? Parce que la pensée peut être impersonnelle, tautologique, repliée sur sa propre vision. Aujourd'hui, nous avons avec les systèmes informatiques, ordinateurs, vidéos, etc., le type de structure pensante d'une élaboration surprenante, mais sans aucune âme. Entre la réponse d'une hôtesse de la SNCF et l'écran d'un Minitel, il y aura toujours un monde infranchissable. Il ajoute, conscient de la valeur de la réciprocité, les penseurs d'Israël opteront pour le parlant, introduisant la valeur incommensurable de l'altérité morale. N'est-il pas remarquable de constater que l'histoire d'Abraham, l'hébreu, débute après l'échec de la tour de Babel ? Dans ce lieu de la tourmente où les hommes n'étaient plus à l'écoute d'autrui, mais repliés sur leur propre génie, leur propre langage, leur propre concept. Ils étaient incapables de réaliser une œuvre commune, c'était déjà Métro Babel Dodo. Donc ça veut dire, la tour de Babel c'est quoi ? Mais la tour de Babel, il n'y a qu'une langue, il n'y a qu'une culture. La tour de Babel, c'est quoi ? Il n'y a qu'un lieu, on n'est que dans un espace. Hein. Voilà. Et puis, les hommes sont tous les mêmes, il n'y a rien. Puis Dieu s'est mis en colère en face de ça. Hein. Il n'a pas pu voir ça. Il a dispersé pour que justement l'homme découvre toute la richesse de la création. Et il a créé la confusion des langues, c'est-à-dire que les hommes sont appelés à rechercher leur propre culture. La langue, c'est la culture. Et le Shavuot, la Pentecôte, c'est l'inverse de Babel, justement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, chacun, dans sa propre langue, dit les merveilles accomplies par Dieu. Ainsi, contrairement aux croyances admises, ce qu'Abraham introduit dans le monde, ce n'est pas le monothéisme. Bien avant lui, Adam ou Noé s'adresse au Dieu unique. Le patriarche inaugure un nouveau rapport à l'homme afin de mieux réaliser la volonté divine. N'est-ce pas là le message d'Israël que d'apprendre aux hommes que nous sommes tous créatures du même Père? Plus tard, au mont Sinaï, les esclaves affranchis entendront « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », soulignant bien l'acceptation de la différence de l'autre. L'amour n'est pas la projection de son propre moi sur la particularité de l'interlocuteur, à l'image d'une toile que l'araignée jetterait sur sa proie pour mieux la digérer. L'amour, c'est le désir de rester soi-même, mais en allant à la rencontre, tout en allant à la rencontre de l'étrangeté, de l'inconnu qui lui fait face. Ne l'oublions pas, tout autre, parce qu'il est autre, parce qu'il se voit autre, est étrange et étranger. Les difficultés de la vie en promiscuité dans nos cités modernes en sont parfois la douloureuse réalité, et les débats politiques contemporains soulignent parfois gravement ce problème éthique. J'ai trouvé que ce passage était important. Alors là, il termine justement par une écoute mutuelle. Et là, je repensais que la première encyclique de Paul VI, Ecclesiam Suam, se terminait en disant « L'Église se fait conversation » et que le dialogue est essentiel justement à la révélation de Dieu. Entre juifs et chrétiens, il dit « Il y a eu à l'origine un dialogue manqué. Les esprits n'étaient pas mûrs pour une écoute mutuelle. 2000 ans d'histoire, la Shoah, le retour d'Israël sur la terre de ses ancêtres, ont fait que nos deux communautés sont devenues adultes et responsables, c'est-à-dire vigilantes quant à l'avenir. Et nous savons que le fait religieux tiendra une place importante en ce début du XXIe siècle. Dans le fait religieux, j'inclus nos frères musulmans, bien entendu. Je crois profondément que l'histoire ne se fait pas seulement par les grands hommes, mais dans les hauts lieux du rendez-vous humanitaire, aux grandes dates fixées par voie de presse. L'histoire s'écrit au rythme des petits hommes du quotidien qui se rencontrent dans l'arrière-salle d'une paroisse ou d'une synagogue, aux dates fixées sans tapage médiatique. Mais c'est cela notre grandeur. C'est cela, donc, le passage. Alors, j'ai trouvé ce passage.
Pour est-ce faire... que c'est Philippe Haddad?
Haddad, oui. Voilà, oui. Qu'est-ce que j'ai dit?
Je vais relire ta dernière phrase.
Ah bon, d'accord, c'est Philippe Haddad, oui, oui.
Je vais vous relire. Pouvez-vous relire la dernière phrase, s'il vous plaît?
Alors, bon, je vais la retrouver, alors, dedans. Bon.
C'est la fin, hein. Le rabbin Philippe Haddad va venir au mois de mars.
Voilà.
Lui qui a écrit cela, il fait partie d'une grosse communauté des rabbins.
D'ailleurs, il viendra, hein, ce sera un de ceux qui va venir. Voilà.
Jean-Marc propose que je lise la
voilà,
dernière
c'est là,
phrase.
C'est là, c'est là, c'est là.
Vous voilà. arrivez à la lire fort.
La dernière la fois, voilà.
Vous voulez que je la lise, Père Barthélémy?
Ben, si vous voulez.
Je crois profondément que l'histoire ne se fait pas seulement par les grands hommes. Dans les hauts lieux des rendez-vous humanitaires, aux grandes dates fixées par voie de presse. L'histoire s'écrit au rythme des petits hommes du quotidien qui se rencontrent dans l'arrière-salle d'une paroisse ou d'une synagogue, aux dates fixées sans tapage médiatique. mais c'est cela notre grandeur. Et il a signé un croyant au dialogue, donc c'est le rabbin Philippe Haddad qui va venir vers nous au mois de mars pour nous parler d'une lecture juive des évangiles. Et j'ai trouvé formidable que le hasard, qui n'en est pas un pour nous, n'est-ce pas, que le Père nous parle de cela à travers la voix du rabbin Haddad, que vous découvrirez comme un homme plein d'humanité, vraiment. Et nous l'avons bien connu et je pense que vous serez heureux de faire sa connaissance également.
Voilà.
Merci.
Voilà.
Alors, merci beaucoup. J'espère que vous avez entendu, parce que c'était de toute beauté ce que vous avez dit. Et je vous remercie encore infiniment. J'ai toujours beaucoup de gratitude pour le père Barcellini, avec qui je travaille depuis plus de 20 ans.
C'est vrai,
mais c'est un être tellement ouvert au judaïsme qu'il m'a toujours beaucoup touchée, pouvant parler à la fois de Jésus, du christianisme, sans choquer du tout le monde juif, bien au contraire, en nous apprenant beaucoup de choses, et en même temps sachant très bien parler du judaïsme, parce que ce qu'il a dit de Shabbat et du mot Shalom, peut-être nous disons-nous Shabbat Shalom, toujours pour le samedi, quand nous nous rencontrons. Et c'est vrai qu'il y a la force du Shabbat, de l'explication du Père Marcellini, de ce retrait de Dieu pour nous laisser la place et continuer la création, et nous continuer, et en même temps ce Shalom qui est le plein de paix, la plénitude, qui veut dire énormément de mots en hébreu. Et merci d'avoir dit tout ce que vous avez dit aussi, pas que cela bien sûr, plein d'autres choses.
Dans les évangiles, c'est très intéressant à voir. Jésus ne promet pas la sécurité. Il dit, je vous donne la sécurité. Non, je vous donne la paix. C'est pas la même chose.
Peut-être pour justement ressentir qu'il y a sécurité, puis continuer à avancer dans le chemin de la confiance.
Voilà,
c'est
ça.
Parce que ça, c'est le plus difficile, voilà, entre le fait là, de dominer ou d'être dominé, et pouvoir évoluer sans être dominé.
Parce qu'on est lancé dans la réalité de la vie. Cette réalité de la vie, eh bien, on a à la vivre dans la paix de Dieu, c'est-à-dire qui est l'espérance et la certitude que ça va se réaliser. Hein.
Lorsque vous le dites, cela paraît facile. Je pense que c'est beaucoup moins facile à vivre dans nos cœurs et dans nos vies. Mais lorsque c'est dit ainsi avec ce que je ressens de votre foi, on a l'impression que c'est facile. Et bien, qui veut poser des questions ou dire ? Jean-Albert.
Oui, je vais le tenir. Bon, d'accord. Alors, Père Barcellini, je vais revenir sur un point fort qui va certainement tous nous marquer, c'est le côté anti-destin. À un moment donné, il y avait ce résumé, mais l'enseignement de la Bible, c'est de nous aider à devenir libres. Et à partir de cet élément, on peut penser à ce qu'a été l'histoire du christianisme ballottée entre le référent grec et le référent juif. C'est-à-dire que nous avons, en tant que chrétiens, hésité, et souvent nous avons été embarqués beaucoup plus sur la culture grecque que sur la culture juive. Alors je vais m'expliquer. La culture grecque a été tout de suite une culture de l'étude des systèmes, des mécaniques, que ce soit la grande mécanique céleste, avec ses dieux, les dieux grecs, qui sont ensuite devenus les dieux romains, la pensée grecque, on va dire plus ou moins cette pensée, je vais réduire, la pensée pythagoricienne, c'est d'inviter le citoyen à trouver sa place dans le système. Hein? C'était essayer de comprendre l'harmonie du monde, et par rapport à cette harmonie de l'univers, trouver votre place dans cette harmonie. Ce qui a entraîné des dérives, certainement dans la pensée grecque, de cette tentation de la prédestination, puisque si on étudie des systèmes avec des lois uniques et multiples qui arrivent à régler le grand système de l'univers, on peut se retrouver sur ce champ de la prédestination, c'est-à-dire où est ma place dans ce grand système. Et on a l'autre pensée, la pensée juive, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, qui insiste beaucoup sur liberté et responsabilité. Et le champ de la liberté est vraiment un champ de l'inconnu. Il est difficile, quand on s'investit dans ce champ de la liberté, de savoir où l'on va et quels sont les systèmes qui vont pouvoir nous permettre de naviguer. Et je crois que là, on est à un tournant actuellement dans notre histoire du christianisme, c'est qu'on est en train de se redétacher du système grec, des études systémiques, pour retrouver réhabiliter le concept de liberté que l'on avait quand même sacrément oublié dans le christianisme. Que pensez-vous, donc, cette articulation, cette friction qu'il y avait eu d'ailleurs pendant l'Antiquité, entre cet appel de la liberté du monde juif et cet appel de l'étude des harmonies chez les Grecs? Que pensez-vous aujourd'hui, ce qu'il en reste, de cette friction entre les systèmes et la liberté de l'homme?
Je pense que là, il faut dire que l'Église a vécu beaucoup dans une théologie née de la culture grecque. C'est ça. Hein? Donc, une culture grecque plus qu'une culture biblique, hein? Plus qu'une connaissance biblique. Alors, je crois qu'à l'heure actuelle, l'approfondissement de la Bible apporte beaucoup à notre vie chrétienne. C'est pour ça que je dis que pour moi, plus je travaille avec le judaïsme, plus je découvre la profondeur de ma vie chrétienne. Parce que je crois que là, en effet, on a fait souvent une théologie culturelle. Hein, c'est ça. Et non pas une théologie suffisamment biblique. Voilà. Ou alors, j'ai fait des études aussi de théologie, il est vrai que, ça fait longtemps, je ne sais pas, ça fait 57 ans, hein, ça fait déjà quelque chose. Donc il est vrai qu'au début de nos études, on se servait de la Bible, on tirait les phrases comme argument pour justifier la position théologique qu'on avait. Tandis que maintenant, l'approfondissement de la Bible nous ouvre à une parole de Dieu qui est toujours ouverte. Je pense qu'en effet, l'Écriture est toujours ouverte. Il est intéressant que nous, on a fait une traduction dans une messe, on dit « comme jadis ». C'est dans une des prières eucharistiques. Hein. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il leur expliqua l'Écriture et leur partagea le pain. On a changé le mot en disant, il leur ouvrit l'Écriture et leur partagea le pain. C'est-à-dire, l'Écriture est toujours une porte ouverte, hein, qui n'est jamais terminée. C'est là la chance. Mais il faut bien dire que dans le christianisme, dans le catholicisme en particulier, l'étude de la Bible, vous savez, moi je suis rentré au séminaire en 1946, il y avait un professeur d'écriture sainte depuis un an. Avant, il n'y avait pas de professeur d'écriture sainte. Il y avait un professeur d'histoire sainte. C'est-à-dire qu'on relisait l'histoire comme on apprend l'histoire de France, quoi. On relisait la Bible comme une histoire, et non pas avec toute son interprétation et la signification qu'elle apportait. C'est vrai.
Merci.
J'aimerais revenir sur cette notion de liberté, oui. Responsabilité individuelle, puisque c'est une notion en tant que protestant qui nous est très chère. Hein, justement ce rapport où on pense qu'on peut seuls, si petits sommes-nous, nous adresser à Dieu ou lire la Bible et l'interpréter. Alors, je suis très attachée à cette notion de liberté et en même temps, pour moi, l'homme sans Dieu et sans les autres n'est pas grand-chose, si ce n'est rien. Hein? Et voilà, et c'est ça, vous l'avez bien dit, en disant que ce que l'on reçoit comme don de Dieu, si on ne le partage pas, il n'y a aucune construction. Dans ce schéma-là, on peut se demander si on est toujours libre, puisqu'on a besoin d'une cette relation à Dieu et qu'on a besoin d'être en relation avec les autres. Alors après, on peut effectivement jouer sur les mots, mais d'un côté, je crois qu'il y a cette liberté qui nous est donnée, et d'un autre côté, on est dépendant, infiniment dépendant.
Oui, alors, c'est vrai. Je peux apporter un peu mon notion.
Bien sûr, j'attends.
Voilà. Je pense, là, c'est tout simplement, il faudrait faire, d'ailleurs, je vais prêcher une retraite à la Platière, rappeler à la liberté. Il y a tout un passage qui sont les illusions de la liberté. Alors, les illusions de la liberté, il y a une première illusion de la liberté, c'est la confusion de la liberté et de la capacité de choix. La capacité de choix n'est pas ma liberté. Il n'y a pas de liberté sans capacité de choix. J'ai mis... C'est Deutéronome qui dit, je crois, j'ai mis devant toi la vie et la mort, l'eau et le feu, à toi de choisir. Hein. Mais ma capacité de choix n'est pas ma liberté encore. C'est ce que je choisis. Hein. Je fumais il y a 20 ans 2 paquets de cigarettes par jour. Hein. Si je mets mon paquet devant moi, j'ai un choix, ou prendre ou ne pas prendre. Mais plus je prends le tabac, plus je ne deviens pas libre, je deviens moins libre, je deviens esclave du tabac. Hein? Maintenant, ça fait plus de 20 ans que je ne fume plus, la question ne se pose plus. Donc, à mesure qu'on avance, plus on avance de la liberté, il n'y a pas de liberté sans capacité de choix, mais la capacité de choix n'est pas ma liberté. Je dirais encore plus, plus on avance de la liberté, moins on fait le choix. Parce que on a trouvé, si vous voulez, une deuxième illusion de la liberté, je pense, c'est la liberté indépendance. C'est-à-dire, plus je suis indépendant, plus je suis libre. Hein? Tandis que, à ce moment-là, Robinson Crusoe est sur son île, c'est l'homme le plus libre qui soit. Hein? Donc, ça veut dire que l'indépendance, ma liberté, elle n'est pas dans les liens avec les autres. Elle n'est pas dans la communion avec les autres. Alors que, autre illusion de la liberté aussi, c'est celle que j'ai enseignée tout à l'heure, c'est la liberté et le désir. Je désire quelque chose, je le veux. Mais le désir, comme je disais, on ne peut pas vivre sans désir, hein, sinon on ne serait pas des êtres humains, hein, le désir est profond en nous. Mais le désir suppose un projet. Parce que c'est comme l'enfant, quand il voit un objet, il le veut. Il n'a pas de projet, il est dominé par l'objet qu'il voit. Alors le désir, c'est la domination de l'objet que l'on voit, souvent. Alors que le désir est toujours lié à un projet. Alors, un autre aspect aussi des illusions de la liberté, c'est, j'allais dire, la liberté-sécurité affective. C'est-à-dire, on veut la liberté dans un groupe qui nous porte. Mais c'est une liberté sans responsabilité. On est bien dans le groupe, hein? Ça peut être vrai pour nos communautés aussi, hein. La communauté nous porte, on est bien, voilà. Ça. Mais ça n'indique pas, ça ne forme pas notre responsabilité. C'est pour ça que je dis, si l'Église, je crois qu'on se rejoint là-dessus, si l'Église n'est pas un lieu de formation à la liberté et à la responsabilité, je ne vois pas ce qu'elle est. Si elle est simplement la communauté qui nous rassemble bien chaudement, hein, alors on se pose plus de questions, on est porté par les autres. Oui. Or c'est justement, le Dieu ne veut pas que son peuple soit une masse. Hein. Il y a une différence entre la masse et le peuple. Hein. C'était Pie XII qui faisait cette différence. Il disait, la masse, elle est mue de l'extérieur, hein. Le peuple, il se met de lui-même, hein. De l'intérieur de lui-même. Alors, je dirais par là que pour moi, la liberté, c'est celle qui est en Dieu, c'est-à-dire que c'est une capacité de communion dans une commune responsabilité. Plus je deviens libre, plus je vis ma communion avec les hommes, c'est-à-dire avec le maximum d'hommes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est l'ordre de la liberté. Le prochain, comme dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'Ancien, je peux dire l'Ancien, parce qu'il n'y a pas l'Ancien Testament, il n'y a qu'un Testament, quoi, pour moi, hein, c'est ça. Hein. C'est aller vers le prochain. L'histoire du bon samaritain, qui a été le prochain? C'est celui qui s'est approché de l'autre. Hein. Donc le prochain, c'est se rendre proche. Et plus je grandis en liberté, plus je suis capable de me rendre proche de l'autre. C'est ça. Et ensuite, cette capacité de communion, c'est-à-dire cette capacité de lien avec d'autres pour travailler ensemble et pour vivre ensemble et construire ensemble. Voilà. La liberté, à mon avis, c'est ça, quoi. Capacité de communion dans une commune responsabilité. Je ne sais pas si je réponds bien.
Oui, moi je voudrais intervenir sur deux choses. D'abord, par rapport à la question de Charlotte, en fait, certains théologiens protestants mettent en garde contre l'illusion du libre arbitre et préfèrent le serf, pas le self, hein, mais le serf arbitre. Serf arbitre, en fait, c'est la faculté d'arbitrer qui est liée à l'attachement à Dieu, à la dépendance au lien qu'on établit à Dieu. Sinon, on tombe dans ce que Paul dit, je fais ce que je voudrais pas faire, j'arrive pas à faire ce que je voudrais faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était par rapport à l'intervention de Jean-Albert, mais en l'abordant sous un autre angle, l'antidespin. Marc Alain Wakening, qu'on connaît bien parce qu'il est venu au temple l'année dernière, oui, vient de sortir un nouveau livre. Il était l'invité de Victor Malka, Zygma. Et justement, il parlait de l'antidestin en disant c'est là que se dessine la ligne de partage entre la croyance et la foi. La croyance, c'est croire que c'est considéré que tout est écrit, comme disent les musulmans, Mektoub, tout est écrit. Donc tout dépend du destin, il y a la fatalité. Alors que la foi que Dieu dépose en nous, Wakening dit, en fait, la foi que Dieu dépose en nous, elle va nous permettre de nous élancer et de nous lancer dans l'aventure humaine.
Tout à fait.
Libre.
Voilà.
Mais avec la responsabilité.
Avec, voilà. Le couple.
Oui, il n'y a pas de liberté sans responsabilité, sinon je ne réponds pas des actes que je fais.
Vous nous avez fait un super plan, Père Barthélémy, de notre programme. Parce que nous avons notre ami Gérard Manon qui est là, qui va nous parler de liberté et de responsabilité. Vous l'avez dans le programme. Lui, ce sera au mois de juin. Alors, j'espère que vous serez là aussi. Oui, c'est plus tard.
Non, au mois de mai.
Au mois de mai. C'est Charlotte, au mois de juin, qui fera la conclusion. Oui, effectivement, liberté, responsabilité, mais un regard kabbaliste de Spinoza à Atlan. Alors, bien sûr, c'est tout à fait dans le judaïsme, mais c'est toujours ouvert, bien sûr, à l'autre. Toujours l'idée de l'altérité. Et si on est là toujours dans nos réunions ce soir et d'autres soirs et depuis de nombreuses années,
c'est de ce but de se connaître. D'autres questions ? D'autres commentaires peut-être ?
Puisqu'on vient de parler de moi, j'en profite pour prendre la parole. Alors, comme l'a dit Eliane tout à l'heure, je veux vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez dit ce soir, parce que je crois que ça entre très profondément en résonance avec la pensée juive. Et je voulais revenir sur quelques points. Vous avez parlé de l'idolâtrie comme ce qui n'ouvrait pas l'homme à l'avenir, comme ce qui était du domaine du fixe. Et je crois que dans le Talmud, il y a bien une expression qui relaye cela. Bon, on a l'expression Avodah Zara pour parler d'idolâtrie, et puis il y a une autre expression qui est utilisée, qui est Avodat Kohavim, c'est-à-dire précisément le service des étoiles. Donc le Talmud lui-même définit l'idolâtrie comme le service des étoiles, précisément parce que c'est le fait de se soumettre à ce qui est fixe, effectivement, absolument. Et je crois qu'il y a un rite, puisque vous avez évoqué Shabbat, il y a un rite qui exprime bien cela, c'est qu'à la fin de Shabbat, pour savoir précisément quand se termine Shabbat, on va à la fenêtre et puis on regarde, on attend de voir trois étoiles. Et on appelle ça donc Tset HaKohavim, la sortie des étoiles. Donc précisément, ce n'est plus l'homme qui sert les étoiles, ce sont les étoiles qui servent à l'homme pour s'inscrire dans le temps et donc pour s'inscrire dans le changement, effectivement. Ouais. Et puis dernier point, vous avez évoqué l'ouverture de l'écriture et puis le fait de rompre le pain. Là aussi, vous rejoignez le Midrash. Lorsque dans le Midrash s'ouvre un nouveau chapitre, il y a une formule qui est « patar v'amar », c'est-à-dire « il a ouvert le verset et il a parlé ». Voilà. Donc je crois qu'effectivement, ce soir, il y a vraiment énormément de résonance. Et c'est vraiment très très agréable. Merci beaucoup.
Y a-t-il encore d'autres intervenants ou d'autres questions, d'autres réflexions?
J'ai lu un passage dans le Zohar, hein, qui c'est ça, enfin, c'est un grand sens. Et dans ce passage, on dit, je ne sais plus, c'est un rabbin qui dit ça, que l'homme est supérieur à l'ange. Hein? Parce qu'il
l'homme
dit,
est supérieur à l'ange.
L'âme est supérieure à l'ange. Parce qu'il montre que l'ange est conditionné, hein? Voilà, l'ange c'est tout, tandis que l'homme c'est un devenir, quoi. Hein? C'est celui qui est toujours au cœur de la création de lui-même. Il faudra que je le retrouve, je ne vais pas retrouver ce passage.
Il y a toujours de très très belles formules dans ce livre du Zohar. Que l'on trouve qui permettent de réfléchir sur les conditions humaines. Est-ce ainsi que l'on termine la soirée? Alors merci pour la corbeille qui s'ouvre et merci aussi pour les nouveaux venus, puisque je n'ai pas eu l'occasion de les saluer. On se dira au revoir après. Et merci aussi à vous.